Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans l'Évangile selon Jean ce texte qui a été le texte central de nos partages pendant ces quelques jours. Donc Jean chapitre 16, dans des paroles de Jésus que nous lisons à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Nous avons vu que l'Esprit de vérité qui vient du Père rend témoignage de Jésus dans notre vie et que nous, à notre tour, nous rendons témoignage de ce témoignage de Jésus. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec moi. L'Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité, ce qui veut dire que il n'existe pas dans la pensée du Seigneur, dans la parole du Seigneur, dans les actions du Seigneur, une part de la vérité, une demi-vérité, c'est toute la vérité. Le mensonge n'a pas sa place dans la vie de celui qui rend témoignage de Jésus. Ses disciples ne pouvaient pas, n'avaient pas assez de carrure pour porter ce que Jésus voulait leur faire porter. Mais ce que Jésus veut, s'il a des disciples avec le cœur bien disposé, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas, mais maintenant, au moment où je vous parle, vous ne pouvez pas maintenant, si on me dit tu ne peux pas maintenant, il y a un espoir pour plus tard, pour après, quand ? Alors nous savons qu'en ce qui concerne ses disciples, il aura fallu que Jésus soit crucifié, qu'il ressuscite, que s'accomplisse après son départ auprès du Père cette formidable journée dite de la Pentecôte, et ils vont devenir des disciples capables de porter. C'était plus le même temps, il y a eu une œuvre qui s'est faite. Et je pense, frères et sœurs, que dans nos vies, il y a des étapes. Comme ses disciples, n'oublions pas que ces disciples qui ont été choisis par Jésus, c'était des êtres humains, et certainement pas des êtres humains au-dessus de la moyenne, humainement parlant. D'ailleurs, quand on considère leurs origines, ce qu'ils étaient, nous voyons là l'amour de Dieu et sa puissance. Capable d'aimer l'être humain pour le transformer, le changer, au point d'en faire un apôtre. Ça, c'est l'affaire de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et il faut savoir que pour vous et moi, le Seigneur n'a jamais décidé que nous restions dans nos limites humaines pour ne jamais connaître les hauteurs qu'il veut nous faire connaître. Je dirais même que vous et moi, nous avons le devoir de manifester une soif pour que ce qui existe maintenant ne soit plus la même chose demain, qu'il y ait des progrès et qu'il y ait surtout, parce que si nous parlons de progrès, pour nous, bien souvent, c'est des victoires à prendre, à vivre, à vivre. Et comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de chanter victoire, de se gargariser l'esprit avec des mots, mais c'est une question de cœur, c'est une question de vouloir, c'est une question de soif. J'imagine ses disciples quand, devant Jésus, entendant ses paroles, certainement qu'il y avait dans les cœurs ce désir de connaître d'autres jours que ces jours où ils étaient incapables de porter, de tout comprendre ce que Jésus voulait leur faire comprendre et d'agir pour agir comme Jésus. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand Jésus dit que nous allons faire les œuvres, alors je le laisse dans son contexte, il s'adresse à ses apôtres, en leur disant que non seulement ils vont faire les œuvres qu'il a fait, donc qu'ils ont vu Jésus faire, mais plus grande encore que ce qu'il a fait. Eh bien, je crois que ce qui a été dit à ses apôtres n'est pas quelque chose réservé à une élite, mais c'est dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Jésus pour chacun d'entre nous. Les œuvres que Jésus a faites, il ne fait pas que de les partager avec nous, mais il peut nous rendre capables de les vivre dans la dimension de l'esprit de vérité qui donnera à chacun la possibilité de faire ce que Jésus va permettre qu'il soit fait. J'ai une référence à vous lire encore, ça sera pas la dernière, mais quand on voit l'Esprit Saint agir au milieu de nous, la forme qui peut être dans nos réunions comme ce matin la plus visible, c'est encore dans son activité. Il y a ce qui se passe dans nos cœurs, il y a cette effervescence, ce feu, ce zèle, et puis il y a la manifestation des dons spirituels. Et par la manifestation des dons spirituels, quand ils sont exercés sous l'onction, c'est-à-dire étant liés par l'esprit de vérité, nous ne parlons pas avec notre intelligence, mais nous sommes en communion avec lui pour parler, et le Saint-Esprit, quand il se sert d'un homme pour parler, eh bien, je voudrais vous rappeler cette parole qui nous est dit en ce qui concerne l'action et l'activité du Saint-Esprit au milieu de nous dans ce domaine. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire, pour l'avantage, le Saint-Esprit ne cherche que ce qui est avantageux pour l'Assemblée, ne cherche que ce qui est avantageux pour notre propre vie, pour la vie de nos familles. Le Saint-Esprit ne fait pas une œuvre pour faire de quelqu'un un être marginal, un être au-dessus des autres, mais il cherche l'avantage de tous. Et cet avantage, c'est, je dirais, dans la mentalité du Saint-Esprit. N'oublions pas que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne qui donne la puissance. C'est une personne qui glorifie Jésus dans notre vie. C'est comme la présence de Jésus au milieu de ses disciples qui étaient encore assez faibles. Eh bien aujourd'hui, s'il y a des faibles au milieu de nous, s'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin aussi, sans être faible de progresser, de vivre dans la dimension de l'esprit, il est là pour leur accorder ce dont ils ont besoin pour être des disciples pleins de feu, pleins de flammes, pour le service de Dieu. Et c'est toujours pour le service de Dieu, dans l'Assemblée, dans ma vie, dans ma famille. L'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre pour être avec Jésus dans ce que lui a décidé pour nos vies. Nous ne décidons plus nous-mêmes. On ne peut pas croire qu'un enfant de Dieu se sert de Dieu pour sa vie. Mais un enfant de Dieu sert Dieu. Sa vie appartient à Dieu. Elle ne lui appartient plus. Vous n'êtes pas d'accord? Mais si vous n'êtes pas d'accord, je continue quand même. Parce qu'il faut que vous entendiez ces choses. Nous sommes au Seigneur. Mais le Seigneur par l'Esprit de vérité, et c'est ce que nous avons du mal à comprendre quand nous devenons à nos moments charnels. Il ne cherche que ce qui est avantageux pour chacun d'entre nous. Même l'inconverti, quand il entre dans une salle comme ça, parce que j'imagine qu'il y a des inconvertis parmi nous, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de faire une rencontre avec Jésus pour le découvrir pour leur propre vie, qu'ils aient leur propre rencontre et qu'ils deviennent de nouvelles naissances pour laisser un passé et vivre une vie nouvelle avec Jésus. Mais là déjà, le Saint-Esprit étant au milieu de nous, eh bien, agit pour l'avantage de ces pécheurs qui sont perdus, parce qu'il va provoquer dans leur vie ce qu'il provoquera pour les amener à la repentance, à reconnaître Jésus et à se dire « maintenant je le suis, maintenant je veux vivre » ou « maintenant je vis ». L'avantage de ta vie, de ton âme dans cette vie, le maintenant change et tu deviendras quelqu'un d'autre, un disciple. Et le Seigneur t'emmènera là où lui veut t'emmener pour que tu sois heureux et pas autre chose. Et les enfants de Dieu qui assistent à ces choses, mais eux aussi ont besoin de recevoir des choses de la part de Jésus. Eux aussi, ils ont besoin de connaître la dimension de Dieu dans leur vie. Pour changer, moi je suis toujours stupéfait de voir des chrétiens, on a l'impression, ça y est, l'œuvre de Dieu s'est accomplie, ils n'ont plus rien à apprendre. Donc si on n'a plus rien à apprendre, on n'a plus rien à vivre. Alors ils deviennent avec Jésus comme ces couples, ils n'ont plus rien à se dire. Quand ils mangent, ils ne se regardent même plus, ils regardent un cadran, la télévision placée sur la table ou au-dessus de la table. J'ai visité une fois un couple de chrétiens qui n'avaient pas d'enfants. Ils avaient un certain âge, la cinquantaine, si je me souviens bien. Et quand j'ai fait cette visite, eh bien, j'ai été surpris parce qu'il y avait une télévision dans chaque pièce, jusque dans les toilettes. Non mais, c'est comme ça, c'est une réalité. Mais vous avez des couples avec Jésus, l'esprit de vérité est absent. C'est la télévision qui a pris la place. Alors, en allant plus loin que le mot télévision, dans la télévision il y a tout, hein. Parce que dans la télévision il y a l'esprit du monde, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a l'esprit du monde sous toutes ses formes, des formes moralistes, des formes de salissure, des formes de discussion, des formes de mode, enfin il y a tout. Il y a l'esprit du monde et l'esprit de vérité n'y est pas. Et je pense sincèrement que le Saint-Esprit, autant qu'il est capable de toucher le cœur d'un jeune homme, d'une jeune fille, pour qu'il change de vie enfin, est aussi capable de s'adresser à des couples pour leur dire « le maintenant, il faut que ça change ». faut une autre dimension dans votre vie. Il faut vous régaler de la présence du Saint-Esprit et mettre dehors tout ce qui a pu faire barrière à l'action du Saint-Esprit. Il arrive que des jeunes gens, des chrétiens, même des adultes plus âgés, me posent la question, est-ce que ceci c'est bien dans ma maison? Est-ce qu'on fait bien de faire cela? Mais vous savez, quand on en arrive à poser ce genre de questions, c'est que l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité est incapable de nous parler, de nous dire ces choses. Parce que si l'esprit de vérité était à sa place dans votre cœur, pour être dans votre couple, pour être dans votre famille, eh bien ces questions-là n'ont pas besoin d'exister. Les choses se font d'une manière naturelle. On sent les choses, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je me balade pas depuis ma conversion avec un livre de mode d'emploi de la vie chrétienne, mais je marche avec l'Esprit Saint. Et il y a des choses, dès la conversion, on ne fait plus. Et il n'y a pas eu une délivrance particulière, il y a eu la délivrance de choses, c'était magistral, et puis on s'aperçoit au bout de quelques semaines, tiens, je fais plus ça, j'ai plus envie de faire ceci, j'ai plus envie de faire ceci. C'est l'action du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de vérité est en nous, il fait cette œuvre de transformation. Et frères et sœurs, je tiens à vous le dire, le Saint-Esprit, c'est un feu dans notre vie. C'est la passion de Dieu. À 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 90 ans. Mais bien sûr, c'est le feu du Seigneur. Et toute la vie, eh bien, on apprend, on avance. Et ce que nous sommes incapables de faire maintenant, faut que ça change. Comment ça va se faire? On va bien voir. Du moment que j'aime l'Esprit Saint, du moment qu'il est là présent dans mon cœur, ben les choses se font. Le Seigneur Jésus, avec ses mêmes disciples qui ne pouvaient pas, n'avaient pas encore les épaules pour porter tout ce que Jésus aurait voulu leur donner. Mais Jésus savait bien que ça changerait, mais il fallait qu'il soit conscient. Vous savez, dans la vie chrétienne, vous et moi, nous sommes toujours à des moments où nous réalisons nos faiblesses, où nous sommes capables de nous dire « là, je suis incapable ». Je suis incapable de faire ces efforts. C'est quelque chose qui a triomphé de moi. Pourquoi? Parce que ça peut être quelque chose, ça peut être dans le cœur, ça peut être une tenue, une conduite, une pensée. On a du mal et on le réalise. Mais parce qu'on aime le Seigneur Jésus, on est malheureux, n'est-ce pas? On se dit, mais comment faire? Comment faire? Alors on prie, on crie au Seigneur même. Il y a des larmes aussi. Mais comment faire? Comment faire? En tout cas, si on ne sait pas comment faire, on sait que nous, on ne peut pas le faire. C'est le constat. Et voilà pourquoi Jésus a parlé comme ça à ses disciples. Jésus aurait pu ne rien dire, là. Et puis, le jour de la Pentecôte, ça va leur tomber dessus. Et puis, voilà, Jésus savait que ça arriverait, ça. Et le jour de la Pentecôte, ils vont devenir des disciples. Voilà, accomplis. Mais il fallait qu'ils entendent ces choses. Fallait qu'ils réalisent qu'il y a un maintenant qui ne peut pas durer. Ça ne peut pas être pour toujours. Il faut que ça change. Déjà, Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Les paroles de Jésus sont esprit et vie, hein. Elles sont esprit et vie, même dans ces moments-là. Je me souviens, j'étais tout jeune converti, je travaillais dans une usine, et puis je témoignais, je travaillais parce que j'étais là-bas pour travailler, mais je témoignais aussi. Et puis pour être tranquille, le midi, alors comme j'étais déjà à 17 ans dans une chambre meublée tout seul. J'étais incapable à l'époque, comme les collègues qui partaient au travail et leurs femmes avaient fait leur, on appelait ça leur gamelle, avec tout dedans, et puis ils partaient travailler, puis ils mangeaient. Mais moi, le midi, je mangeais pas, j'avais jamais le temps de me faire quoi que ce soit, et j'y pensais pas, quoi. J'étais toujours en vadrouille, là, à témoigner, à me réjouir, tout ça. Puis quand je partais au travail, oh mince, j'ai pas pris à manger. Alors je me mettais sur une pelouse dans le cœur de l'usine, là, et puis j'avais ma Bible, je lisais ma Bible, là. Et là, j'ai vu des jeunes gens arriver, à qui j'avais parlé de Jésus, comment Jésus m'avait sorti, parce que je ne pouvais pas expliquer la moindre chose dans la Bible, hein. Quand on me disait, et si ceci, mais j'ai dit, je ne peux pas, moi. Moi, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. C'était tout frais, là, ça avait quelques semaines. Mais si vous voulez avoir des réponses, venez avec moi à l'église, il y a un pasteur, lui va vous répondre. Mais en tout cas, moi, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Et j'ai vu ces jeunes gens arriver, et il y en a un qui a explosé devant moi. Il m'a dit, mais depuis que tu es arrivé dans cette usine, on n'est plus tranquille, nous on aime les filles, on aime la fête, et toi tu es venu nous perturber. Ah, j'ai regardé, j'avais des yeux comme ça, waouh. Je m'apercevais ce que le témoignage de Jésus pouvait provoquer. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Le témoignage de Jésus, quand l'esprit de vie est dans notre vie, elles sont esprit et vie. Il n'y a pas besoin de faire des stages. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de le défendre. Il n'y a pas besoin de nous pour se défendre. Le Seigneur nous a demandé d'être remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donnera l'occasion de témoigner de Jésus. Mais quel témoignage ? Ben celui qui existe dans ma vie. C'est tout. Moi, ça fait plus de 40 ans, mais ça fait plus de 40 ans que je donne toujours le même témoignage, mais je vois que ça fait toujours de l'effet. Pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre de Jésus, c'est pas un discours. Alors quand Jésus leur a dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter maintenant, et ces paroles-là sont esprit et vie aussi, et dans leur cœur, des disciples ont été touchés. Des disciples ont été contraints de se poser des questions, de se remettre en question aussi. Ils se demandaient qui c'est qui était le plus grand parmi eux, et là Jésus leur dit que tous, ils étaient incapables de porter la suite. Alors ils se posent des questions, on se dit, mais pourquoi j'en suis là? Pourquoi? Mais c'est l'affaire de Jésus. Écoutez bien, c'est l'affaire de Jésus, parce que Jésus ne nous reprochera jamais, et vous remarquerez qu'il n'y a aucun reproche, même quand il dit « vous allez me laisser seul », il leur dit « mais soyez dans la paix ». Jésus ne fait pas de reproche. Jésus dit « voilà, il y a ça dans ta vie, mais ça peut changer, parce que moi j'ai décidé que ça change, et toi, tu décides quoi ?» Et je dis que c'est l'affaire de Jésus. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Dans Luc chapitre 24, verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et au verset 45, « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Alors il ne s'agissait pas d'être assez intellectuel pour comprendre la loi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu tous ces chapitres qui concernent la loi. Ce n'est pas 10 commandements, hein. C'est plus que ça. Est-ce que vous vous réjouissez chaque matin ou chaque jour, hein, chacun à son créneau, avec le livre du Lévitique, hein? Et Jésus leur dit qu'il fallait que ça s'accomplisse, parce que dans tout ce qui a été donné par la parole de Dieu, tout est suffisant pour notre vie. Mais il ne s'agit pas de pouvoir emmagasiner ces choses pour les comprendre avec notre intellect. Ça ne fait pas des disciples. Ça peut faire des théologiens, mais pas des disciples. Il a fallu que Jésus leur ouvre, écoutez bien, leur esprit. Leur esprit. Le terrain extraordinaire de la communion, de la communication, de l'action du Saint-Esprit, c'est avec notre esprit. C'est là que ça se passe. Alors ça descend dans le cœur et ça envahit tout l'être. Mais il faut reconnaître que il existe beaucoup d'obstacles. Quand la parole de Dieu, nous la comprenons par notre esprit, ce ne sont plus simplement des mots, c'est la dimension de ces mots. C'est le poids de ces mots, c'est l'envergure de ces mots, c'est la profondeur de ces mots, c'est la réalisation de ces mots. Et ça se fait par le biais de notre esprit, là où l'esprit de vérité agit, comme il sait le faire, lui. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la vie chrétienne qui font que nous sommes dans une situation affaiblie. Il faut que quelque chose se débloque. Vous l'avez jamais dit, ça? J'ai un blocage. Un blocage. Mais c'est pas grave pour le Seigneur Jésus. Lui, il ouvre toutes les serrures. Il n'y a pas une serrure qui lui résiste. Il n'y en a pas une, si nous le voulons, bien sûr. Quand il nous est dit, il leur ouvrit l'esprit. En fait, le Seigneur Jésus a fait céder un verrou. Ils avaient l'esprit verrouillé. Jésus va ouvrir ce verrou. Il va faire céder ce verrou. C'est pour ça que je vous dis que Jésus, il n'y a pas une serrure qui lui résiste. Ah oui? Il existe ces choses dans nos vies, n'est-ce pas? J'arrive pas. Je ne comprends pas. Ça fait des années. Il y a des maintenant qui sont témoins d'un passé qui est long. Il peut être aussi douloureux. Mais le Seigneur n'a jamais voulu ça pour votre vie, ni pour la mienne. Le Seigneur veut nous faire avancer. Et l'action de l'esprit de vérité, c'est de déverrouiller, parce qu'il fait l'œuvre de Jésus, notre esprit, pour que les choses d'en haut nous pénètrent et puissent accéder jusque dans notre cœur pour transformer nos vies. Et c'est encore une chose qu'il faut reconnaître. Il s'agit de notre soif et de notre volonté. Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur entend ces mots. Il entend les cris. Celui qui ne change pas, celui qui reste un homme pour vivre une vie chrétienne médiocre, quand je dis un homme, un être humain, hommes et femmes. Mais cette vie chrétienne médiocre, nous pouvons la vivre toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi pas? Parce que ça dépend que de nous. Mais c'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas ce que l'Esprit de vérité veut. Dans nos rassemblements, là où l'Esprit de vérité cherche l'avantage de tous, pour nous arriver dans le commun accord, Mais quand les chrétiens arrivent pour l'heure de la réunion, ça se bouscule. Ça se bouscule. On veut tous sa place, non? Ça devrait être comme ça. Hein? Mais dans le monde, ne me dites pas le contraire, quand on a envie de quelque chose, on se bouscule au portillon. Hein? Ça joue des coudes. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, moi je dis souvent, il y en a qui grugent. Hein? Bon, on devrait voir ça pour arriver à l'église. Ouais, moi j'aimerais bien qu'un chrétien, ah, la sœur elle m'a bousculé pour ne pas être devant et moi je suis obligé de l'aider. Ah, ben, vous êtes bien comme ça, tant mieux, c'est bien. Ça, quand on est habité par l'Esprit de Christ, c'est formidable. Hein? C'est comme ça. Hein? Mais vous en avez, dans le monde, c'était toujours les premiers. Ils ne laissaient jamais leur part, mais à l'Église, bon, on vient quand on est bien disposé. On vient quand toutes les lampes sont au vert. Alors ces lampes, vous leur donnez les noms que vous voulez. Hein. Quand il y a une bonne disposition de ce cœur où l'esprit de vérité n'y est pas vraiment, faut que ça change ces choses-là. Parce que le Seigneur voudrait vous faire porter une dimension exceptionnelle. Cette assemblée a décidé de suivre une ligne de conduite. C'est formidable, c'est bien, c'est encourageant, mais pas pour rester comme vous êtes, pour aller encore plus haut et encore plus loin. Il y a des choses que le Seigneur va donner à l'Église de la fin des temps. On va dérouiller, parce que il y en a un qui arrive pour faire son sale travail. Mais vous savez, quand on dérouille en servant le Seigneur, ça fait du bien. Les apôtres, ils étaient joyeux d'avoir subi les outrages. Mais il faut se préparer à cela. On prend des décisions pour suivre une ligne de conduite, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure. Donner à l'esprit de vérité l'occasion de changer le maintenant, de le changer. Jésus a la puissance, la force de déverrouiller notre esprit qui connaissait un certain blocage avec les choses spirituelles. On veut bien de l'évangile, mais arriver à un certain stade, il y a un blocage qui est une résistance aussi. Dans Jean chapitre 20, j'aimerais vous lire quelque chose. C'est après la résurrection de Jésus, au verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Jésus, rien ne l'arrête, hein? On peut l'empêcher de rentrer chez nous, d'accord. Mais si on l'aime pour qu'il y soit à son aise, rien ne l'arrêtera. Se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ils vont progresser. Cette rencontre après la résurrection, tous n'étaient pas là. Évidemment, il y a le Judas, lui, son compte a été réglé, mais il manquait... Vous vous souvenez qui manquait? Thomas. Thomas l'incrédule. Vous savez que l'incrédulité, c'est une maladie chrétienne. Hein. Le monde n'est pas incrédule, le monde est le monde. Mais l'incrédulité, c'est ce qui touche les croyants. C'est une maladie de croyance. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, race incrédule. Hein? Je ne sais pas si votre pasteur a déjà eu l'occasion de parler comme ça. Mais nous, on se réfugie derrière la prédication pour le dire. Mais c'est vrai que nous avons une nature, faut pas grand-chose pour nous faire basculer dans l'incrédulité. Oh, on aime le Seigneur, on loue le Seigneur, mais pour aller plus loin, on est incrédule. Quand Jésus dit, tu ne peux pas les porter maintenant, mais... Non, c'est vrai, tu as raison, Jésus. Tu vois, Jésus l'a dit, il a raison. Alors on reste comme ça, on ne veut pas que le maintenant change, c'est d'incrédulité, ça. C'est pas bon, l'incrédulité. Ceux qui étaient là pour apprendre, ils n'étaient pas meilleurs que Thomas. Arrivés où ils étaient arrivés, ils étaient tous avec ce besoin de recevoir l'esprit de vérité. Et quand Jésus dit « Recevez le Saint-Esprit », Jésus voit leur bonne disposition de cœur. Parce qu'en voyant Jésus, c'est la joie qui s'est emparée d'eux. Ils ont entendu Jésus dire « La paix soit avec vous ». Pas Thomas, eux qui étaient là, avec leur soif de faible, leur soif de disciples empruntés. Jésus leur donne la paix. Quand il leur a dit qu'il les laisserait, qu'ils s'enfuiraient, mais je vous donne ma paix. Soyez en paix. Il les retrouve, la paix soit avec vous. Parce que ce qui compte pour Jésus, c'est que l'incrédulité ne soit pas dans nos cœurs. Que nous soyons toujours devant lui avec la joie de notre salut pour apprendre, pour grandir, pour faire des choses qui nous dépassent, qu'on va découvrir, mais qui vont l'honorer, lui. Alors Jésus est là, et il nous donne sa paix. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus leur parle en leur disant qu'ils vont être livrés au Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus leur communique déjà quelque chose du Saint-Esprit, qu'ils vont voir le jour de la Pentecôte, quelques semaines plus tard, ils seront vraiment des disciples remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Mais déjà, l'œuvre du Saint-Esprit leur est accordée pour les stimuler, pour les encourager, pour que ce que Jésus a dit soit encore à leur avantage. Et dans la vie chrétienne, même si on n'a pas tout compris, Dieu merci parce que ça nous fait avancer. Le jour où on croit avoir tout compris, on stoppe. Mais alors, on est encouragé. Il y a une dimension, il y a une chose, mais on ne peut pas la déterminer. Mais elle est là, comme une main divine qui est avec nous et qui nous encourage avec cette joie que nous possédons de notre salut, parce que les choses arrivent, les choses vont se concrétiser. Mais la vie chrétienne, c'est ça. C'est ça. Ne dites pas, oh, ce matin, c'est un message spécial. Non, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Ils vont entendre ces choses. Jésus s'est levé pour leur donner du pouvoir. Est-ce que vous êtes conscients que nous avons du pouvoir? Il y a des chrétiens qui agissent et qui ont une vie sans pouvoir. On dirait des vraies victimes. Alors que Jésus a donné ce pouvoir, l'évangile selon Jean, la parole de Dieu qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est quelque chose quand même, c'est pas rien. Et Jésus veut concrétiser ces paroles dans notre vie, il ne suffit pas de les lire et de dire « Alléluia ». Mais Jésus veut nous les faire vivre. Le pouvoir de la parole de Dieu dans notre vie. L'enseignement de Jésus, ces paroles qui sont esprit et vie, mais nous devons les vivre. C'est dans notre service, c'est dans notre nouvelle naissance. Quand Jésus s'est levé un jour de fête où tout le monde cherchait à le faire mourir, lui, il se lève comme un trouble-fête. Et c'est souvent comme ça dans nos vies, même de chrétiens. Mince, est-ce qu'il avait à parler comme ça ce matin? J'étais bien chez moi, j'étais tranquille. Mais vous racontez une chose, elle sera entendue par celui qui est concerné, parce que je vais les mettre sur le site de l'Église, ces prédications, on me l'a demandé. Mais quand je suis arrivé au chantier, les choses, elles ont commencé à se mettre en place au travers du service que j'accomplissais. Et puis, il y a un chrétien qui est venu vers moi, un chrétien depuis des années, bien avant moi dans cette église, il m'a dit « J'ai besoin de vous parler !» J'ai vu qu'il était un peu excité, je l'ai suivi, je l'ai emmené dans mon bureau, j'ai dit « Vas-y, je t'écoute. » Il m'a dit « Mais ça va plus !» Depuis que tu es arrivé ici, ça va plus. J'ai dit, qu'est-ce qui va pas? Il m'a dit, tu comprends? Moi, je venais le dimanche matin, j'étais tranquille. L'après-midi, moi, les réunions, ça ne m'intéressait pas. Le dimanche après-midi, moi, c'était le golf. Mais j'étais tranquille comme ça. Personne ne m'a jamais rien dit. Tout marchait bien dans ma vie. Culte, golf. J'ai dit, je suis désolé. Je suis désolé pour toi, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu me demandes de changer ma prédication? Je comprends plus. J'ai dit, écoute, tu finiras par comprendre. Et ce chrétien est devenu un chrétien avec du feu et du zèle. Mais il a abandonné des choses. Et quand Jésus vient dans notre vie, c'est comme ce trouble-fête le jour de la fête où on cherchait à le faire mourir. Il se lève. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » Ce qu'il voyait au maintenant, c'était des hommes qui cherchaient à le faire mourir, qui se moquaient de lui, qui le méprisaient, mais il dit ces paroles. Parce que dans cet auditoire, certainement que quelqu'un va saisir ces paroles et il les vivra quelque temps plus tard. Parce que pour Jésus, le maintenant change toujours quand il parle. Chaque prédication que vous entendez dans ce lieu, que vous avez entendue, c'était pour que le maintenant change. Et pas pour se dire, bon, c'était un bon sermon, puis rien ne change. Ça, c'est grave. Parce que ça, c'est mépriser celui qui parle de la part de Dieu. Même s'il ne s'en rend pas compte, forcément, toujours. Parce que les paroles que le Seigneur nous donne, c'est toujours pour aboutir à quelque chose. Et si nous refusons, nous sommes comme Thomas, des incrédules qui n'étaient pas au rendez-vous quand Jésus a dit que la paix soit sur vous. Et quand on vit cette vie en dehors de la dimension du Saint-Esprit, cette paix n'existe pas. Il y a quelque chose qui manque à ta vie, mon frère, ma sœur, dans ton couple, dans ta maison, cette paix de Jésus. Jésus entre dans ce lieu, ça devait être quelque chose de formidable de sentir cette paix. Parce que quand Jésus dit « la paix soit avec vous », vous savez, il y a des gens qui me saluent quand ils sortent de l'église, « Bonjour frère, vous allez bien ? Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu !» J'entends ça moi des dizaines de fois, « Par la grâce de Dieu !» Et puis quand vous les voyez vivre, vous les sentez vivre, bon, heureusement qu'il y a la grâce. Hein. Mais quand Jésus était là avec la paix, ça a embaumé la maison. Hein. Quand il y a une paix, quand on se sent bien en paix, c'est formidable. Et donc, si quelqu'un a soif, voilà. Même dans les auditoires les plus à l'ouest, on va dire, Jésus est capable de parler comme ça. On peut aimer sincèrement son assemblée, mais il faut que ça change. On peut se dire, oui, c'est vrai, on a pris les bonnes décisions, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai décidé de suivre une ligne de conduite. Il y a des choses qui doivent changer aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a ce que le Seigneur Jésus a prévu. Une assemblée qui vit de ce commun accord Nous avons lu dans 1 Corinthiens 12 que le Saint-Esprit agit pour l'utilité commune, l'avantage du commun accord. Ah oui. Après avoir pris un commun accord, alors le Saint-Esprit veut œuvrer et changer bien des choses. C'est comme ça que ça se passe avec lui. Il y a eu dans le modèle parfait de l'Église parfaite. Si je dis l'Église parfaite, ça ne veut pas dire que c'était une Église sans problème, mais parfaite parce que c'est le modèle unique de l'Église même d'aujourd'hui. Vous cherchez à imiter une Église pour réussir, acte, livre des actes. Vous avez le modèle parfait. Vous voulez un programme pour l'Église ? Vous avez le programme parfait. Persévérer dans la prédication, la Sainte Cène, communion fraternelle, les prières. C'est le programme parfait. Tout ce qu'on a rajouté derrière. Et tout ça, ça brouille les pistes. Ce qui est dommage, c'est que ce sont des pistes, disons des voies spirituelles. Et le Seigneur a trouvé des chrétiens pour être remplis de l'esprit de vérité, ainsi la crainte de Dieu les habitait. Et ceux-là sont animés par la parole de Dieu avec l'esprit de vérité. Vous remarquerez que ces chrétiens, aucun n'avait sa Bible comme nous, nous pouvons l'avoir chacun pour sa part. Les prédicateurs annonçaient ce qu'ils avaient entendu de Jésus et les Écritures comme nous les avons aujourd'hui, mais ils étaient enseignés par des hommes conduits par l'esprit de vérité, capables de citer et de répéter la parole de Dieu pour l'enseigner. Et à un moment, dans une réunion qui s'est transformé en réunion de prière, vous avez Pierre et Jean qui arrivent vers les leurs, le commun accord, et dit voilà, on nous a menacés, on nous a dit qu'il ne fallait plus enseigner le nom de Jésus. Lequel de nom de Jésus? Parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal, hein. Alors le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Jésus qui a été crucifié pour nos péchés et que Dieu a ressuscité des morts, celui que vous avez crucifié. Il ne voulait plus de cet enseignement-là. Il ne fallait surtout pas parler du péché, de la résurrection, parce que derrière, il y avait la délivrance, le salut, etc. Il fallait qu'ils changent leur message. Et ils le disent. Alors imaginez, ils sont là, voilà ce qu'on nous a demandé. Dans les églises d'aujourd'hui, on dirait, allez, on va faire un vote. Qui est pour que l'on enlève cette partie du message et que on se présente comme cela, parce que sinon on n'aura plus de salle. Parce que c'était précaire, hein. Ou alors on pourra plus se réunir près du temple, ils vont nous l'interdire. Quand il parle de ces menaces, les enfants de Dieu conduits par l'esprit de vérité vont citer la parole de Dieu qui avait été écrite par le roi David et vont pas seulement la citer. Ils n'étaient pas seulement ceux qui se rappelaient, mais ceux qui vivaient. Et ils vont dire, tu as dit par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas parler sans nommer le Saint-Esprit. Ben oui. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui sont capables de dire aujourd'hui, il ne faut pas mettre le Seigneur ou l'Esprit-Saint à toutes les salades. Moi, je le mets à toutes les salades de ma vie. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans toutes les dimensions de ma vie. Il n'y a pas un côté de ma vie privée et un côté public. ce que je suis ici, je suis dehors. Et tout ce qui fait ma vie, avec les responsabilités d'homme, de père, etc., ben, je le vis avec le Saint-Esprit. Je suis désolé, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Tu as dit par le Saint-Esprit. Et la prière qu'ils vont faire, mais tous unanimement, la prière qu'ils vont faire, ils vont prier pour les serviteurs de Dieu qui ont reçu ces menaces. Et ils vont dire quoi au Seigneur ? Seigneur, donne-leur de l'assurance. Vous imaginez, Pierre et Jean entendent des choses pareilles. Pierre, il a prouvé qu'il avait de l'assurance. Hein. Oui, mais cette assurance, il faut qu'elle reste. Il y a des choses qui changent dans nos vies, non ? Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, dans l'église du Sentier, je suis plus ce que j'étais. Je sais que je n'ai plus la même vie spirituelle. Il y a des choses qui changent. Un serviteur de Dieu peut changer aussi. Et eux, ils ont demandé au Seigneur, parce que ce mot assurance, ce n'est pas une histoire d'aplomb, de caractère. Littéralement, c'est « Seigneur, qu'ils ne changent surtout pas leur message. Donne-leur d'avoir ce culot. Donne-leur d'avoir cette force de caractère pour ne pas changer le message, pour ne pas transformer leur prédication. » Et la parole de Dieu nous dit, à la suite de cela, le lieu où ils étaient assemblés trembla. L'Esprit de vérité aime ces prières. Il y a des prières, laissez-moi vous dire, il y a des prières chez nous, faudra arrêter. Seigneur, bénis ma voiture, bénis mon travail, bénis mon chef, parce que s'il est béni, il va me bénir. Seigneur, bénis nos assiettes. Il y a des prières, faut les arrêter. Nous vivons des temps où il faut laisser le Seigneur s'occuper de nos assiettes, s'occuper de nos patrons, tout ça. Jésus l'a dit de toute façon. Hein. Et puis de dire, Seigneur, donne à tes serviteurs. C'est un grave problème aujourd'hui. Hein. Moi, je bénis le Seigneur de connaître mon frère, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul. Mais le frère est pareil, même si on était seul, il faut cette assurance, il faut qu'elle dure. Et il faut qu'on soit conscient que nous vivons des temps où l'état d'esprit de Pilate, l'état d'esprit d'Hérode, mais c'est l'esprit du monde. Et l'Église est là pour lutter, pour vaincre et ne pas se laisser avaler. Seigneur, il faut que ton œuvre se fasse. Alors il faut que nous tous, nous soyons non pas seulement d'un commun accord par le vote, mais d'un commun accord par la prière, par l'esprit de vérité, par le zèle, par le feu. Et dans nos maisons, il y aura une bénédiction. Je termine avec ces paroles dans le livre des Actes. Il nous est dit, après ce service de baptême de plusieurs milliers de personnes, vous remarquerez que la parole de Dieu ne s'étend pas, hein. Elle dit environ 3000, mais le plus important, c'est ce qui suit. Et ce qui suit, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement, donc dans la prédication des apôtres, dans la communion fraternelle, etc. La crainte de Dieu s'emparait d'eux tous les jours au temple, tous les jours des réunions. Mais ils étaient heureux, hein. Ils ne disaient pas, hein, les frères, ils exagèrent quand même, hein. Eux, ils sont à plein temps, ils peuvent en faire des réunions tous les jours. Mais nous, quand même, on a les enfants, les petits-enfants, on a le jardin, on a le toit de la maison à refaire, on ne peut pas être tous les jours à l'église quand même. Parce que l'église, c'est le corps de Christ, il ne faut pas l'oublier. Les bâtiments, c'est une chose. Mais ils étaient tous les jours ensemble, ils trouvaient le moyen d'être ensemble tous les jours et puis de nourrir leurs enfants, hein, et que ça marche à la maison. Hein, parce que la parole de Dieu nous dit... Ils rompaient le pain dans les maisons, Donc ça, le pain, c'est le pain de la nourriture quotidienne, hein, ce n'est pas la Sainte Cène, au verset 46, évidemment. Et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Dans leur maison, il y avait de la joie. C'est le même mot quand il nous est dit, toujours dans le livre des Actes, que les apôtres, quand ils ont désobéi, hein, parce qu'on a le droit de désobéir, on doit être soumis aux autorités, mais quand les autorités nous diront de ne plus enseigner le nom de Jésus, là, désobéissance. C'est enregistré, hein. Moi, je suis soumis aux autorités, il faut être respectueux. Mais s'ils ne respectent pas mon Seigneur Jésus, c'est leur problème à eux et pas le mien. Et les apôtres, ils se sont retirés, joyeux d'avoir été jugés de subir des outrages pour le nom de Jésus. Cette même joie. Dans la maison, avec simplicité. Avec simplicité. Quand ils rentraient à la maison, ce n'était pas pour dire, eh, tu l'as entendu encore? Eh, tu l'as vu avec son chapeau, la sœur, là? Non, mais elle exagère quand même. Mais tu sais bien, c'est une extravagante. Non, mais attends, t'as vu le fils de la sœur, là, encore, dans l'état où il est? Ben, elle ferait mieux de se taire, d'être plus discrète, d'être plus humble. Il n'y avait rien de tout ça dans les maisons. Rien de tout ça. Rien. Ils avaient cette simplicité. Ce mot est beau, vous savez. Ça veut dire que il n'y avait pas de discussion. Il y avait un esprit de paix avec la joie. Ils étaient heureux. Ils parlaient des bonnes choses qu'ils avaient vécues et à la prochaine réunion qui allait arriver. Heureux de se retrouver. Trouvez pas que ce serait mieux de rentrer chez vous aujourd'hui après les réunions pour ne plus vous disputer, pour ne plus vous replonger dans ce qui est compliqué et qui nuit à votre bonheur et qui nuit à votre paix. Mais quand l'esprit de vérité agit, il règle tous les problèmes, vous savez. Si on le laisse agir dans notre vie, il s'occupe de notre vie. Il s'occupe de notre vie, jeune homme, jeune fille, homme, femme, vieillard. Bien sûr, l'esprit de vérité, je le veux, Seigneur. Comme David, surtout, Seigneur, ne me le retire pas. Ne me le retire pas. On est ensemble, d'un commun accord, parce que c'est lui notre motivation. On n'est pas là parce qu'on est fait pour s'entendre. Moi, je suis persuadé que dans cette église, comme ailleurs, comme au chantier, on n'est pas tous faits pour s'entendre, humainement parlant. On n'a pas toujours le même degré d'application de l'hygiène, de la nourriture, de tout ce qu'on veut. Oh là là! Une fois, je me suis retrouvé dans une visite chez une brave sœur. Elle m'a dit, je peux vous servir quelque chose à boire? Oh ben, je dis, je veux bien un verre d'eau. Elle m'a donné un verre. Avec de l'eau dedans, on aurait dit du café. Le verre était tellement sale qu'on aurait dit du café. C'est vrai. Mais pour elle, c'était... Mais c'est pas ça la communion fraternelle, hein ? C'est mieux que ça. Quand l'esprit de vérité nous anime. On finit par être d'un même cœur, d'une même âme. Mais pas pour le même plat. Qu'on va manger en rentrant, pour les mêmes choses, pour servir le Seigneur. La même direction, la même soif. Seigneur, qui est ce fleuve en nous? Alléluia! Allez, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci de nous bénir tous ensemble, parce que c'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous recherchons, Jésus. Ah, bénis mes frères, mes sœurs, les amis, les enfants qui ont besoin de toi, Seigneur, fais ton œuvre, étonne-nous, manifeste ta puissance, Jésus. Manifeste ce que tu veux manifester, que plus rien ne t'arrête. Ces couples, ces familles, ces jeunes gens, Seigneur, qu'ils soient transformés à ton image, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Viens, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bénis.